Syllab, la radio sauvage.
Dès 10h, le samedi.
Faut juste oser, en fait, et poser aussi les bonnes questions.
Création, émission, fiction.
Les ateliers de radio Syllab, dès 10h, le samedi.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
C'est pour ça que j'aime bien la radio.
Salut à tous et à toutes, chers auditeurs et chères auditrices.
On est des lycéens et lycéennes du lycée Mono Heureux. On est en classe de seconde et aujourd'hui, on s'empare des micros de la radio Syllab.
Vous êtes sur le 88.4 FM et on s'apprête à partir ensemble pour une heure de programme spécial en direct de l'auditorium de la médiathèque, l'autre lieu.
Tout à fait. Avec notre classe, on a travaillé avec la radio Syllab, les Champs Libres et Suzanne Joly qui travaille sur l'égalité femmes-hommes. On a travaillé toute l'année sur la thématique des femmes et des sciences.
On vous a donc préparé deux épisodes, deux émissions spéciales sur le thème des sciences au prisme du genre.
On parlera des stéréotypes du genre, de leurs impacts sur l'engagement des jeunes dans les filières scientifiques.
De notions un peu théoriques, mais qu'on va tenter de vulgariser au mieux comme l'effet Mathilda ou encore le plafond de verre.
Et enfin, on vous présentera une initiative trop chouette, l'association Insatisfaite. C'est une association féministe créée au sein de l'INSA, une école d'ingé où il y a une grande proportion de garçons. Les Insatisfaites a entre autres pour mission de lutter contre le sexisme ordinaire dans l'établissement. Vous en saurez plus en écoutant l'émission.
Eh bien, c'est un programme, ça donne envie.
Allez, c'est parti, on démarre tout de suite.
Syllab, la radio sauvage. Dès 10h, le samedi.
Avant, je détestais ma voix, maintenant ça va.
Moi, j'ai bien aimé enregistrer dans les studios et c'était cool.
On démarre avec un sujet consacré aux stéréotypes de genre, à leur impact dans les apprentissages scientifiques, à l'école d'abord, mais aussi à leur impact dans l'engagement dans les filières scientifiques des élèves.
Margot, Manon, Clémence, Zoé, Maïla et Enora se sont penchées sur le sujet et ont d'abord réalisé un micro-trottoir pour recueillir la parole d'autres élèves et du lycée.
Est-ce que les élèves ont déjà ressenti une certaine déconsidération dans les matières scientifiques du fait de leur genre ? Est-ce que les élèves ont déjà eu l'impression que les profs de matières scientifiques font des différences entre les filles et les garçons ?
On écoute leurs réactions.
Est-ce que vous êtes déjà sentie plus ou moins forte qu'un homme dans les matières scientifiques ?
Moins forte.
C'est-à-dire, genre, dans quelle matière, plus précisément ?
En physique et en maths, parce que les garçons, déjà, les profs, ils préfèrent les garçons dans les matières scientifiques. Et du coup, vraiment, on voit qu'on est réduit, vraiment, on voit qu'on est plus nul qu'eux.
Bah déjà, dans notre classe, il y a ceux qui sont forts en physique, par exemple, c'est que des mecs. Mais moi, personnellement, je suis nulle en physique de base, donc en soi, oui, je suis moins forte. Mais...
Non, pas vraiment, parce que je suis avec des filles genre vraiment super fortes en maths. Du coup, je me sens nulle, mais pas comparée à des hommes, quoi.
Et est-ce que vous trouvez que genre, les profs, ils réagissent différemment selon le sexe de la personne dans ces matières-là scientifiques ?
Moi, j'avais Monsieur Coco, et franchement, non, il faisait pas attention à ça, il était hyper clean. Il faisait pas attention au sexe, donc il était clean pour les deux. Mais je sais qu'il y a des profs qui ont des préférences pour certains garçons. En fait, il y a des profs qui préfèrent les gens plus forts et vu que souvent les garçons ils sont plus forts entre guillemets, bah les profs ils ont des préférences pour les garçons quoi. Maths, physique, SVT, c'est vraiment l'élite alors que en vrai ça change rien quoi. C'est juste des gens qui ont des préférences.
Alors là, j'ai pourtant ça va, je regarde bien le comportement des gens, mais j'ai pas remarqué ça. Mais après ça dépend aussi souvent le sexe du professeur. Tout dépend, et puis tout dépend, il y a tellement de plein de facteurs à prendre en compte. Je pense pas, non. Je pense qu'ils sont respectueux.
Non, c'est pareil, c'est vraiment la personnalité de l'élève, s'il l'aime bien, s'il l'aime pas, ou si bah, il y a des affinités, suivant le niveau aussi de l'élève par contre, plutôt.
Et est-ce que vous êtes déjà senti rabaissée ?
Bah moi, non, j'avais maths physique l'année dernière, j'étais pas rabaissée, parce que j'étais pas avec les intellos... J'étais pas avec les garçons intello, mais j'ai des amis qui ont arrêté la SVT parce que leur prof d'SVT en première favorisait trop les garçons.
Moi, je me suis jamais sentie rabaissée l'année dernière en enseignement scientifique, mais je sais qu'en seconde, j'avais un prof de physique qui était très méchant avec ceux qui étaient nuls, alors que bah, c'était pas notre faute parce qu'on comprenait pas quoi. Mais sinon, non, cette année, pas du tout.
Non, pas plus que ça. Non, pas plus que ça, non. Non, des fois, il y a des professeurs qui sont un peu clash, mais bon, sinon ça va.
Oui, mais je pense que c'est plus pour ma personnalité que pour mon genre.
Et est-ce que vous avez déjà assisté à du sexisme ?
Oui, les gars, ils sont parfois macho. Hein.
Et dans les matières scientifiques ?
Bah, on a presque que des matières scientifiques, donc ouais, en cours, ça arrive, ouais.
Non, pas trop, mais c'est vrai qu'on m'a souvent dit que bah, les femmes réussissaient moins bien dans le domaine scientifique que dans le domaine littéraire.
Pas forcément... Très voyant le sexisme, peut-être plus discret, des petites remarques par-ci par-là.
Et comment est-ce que tu as réagi ?
Bah, vu qu'en général, c'est pas les élèves qui le disent, c'est plus les profs. On n'a pas forcément l'occasion de réagir. Surtout si on réagit, on se prend quelque chose.
Est-ce que tu trouves que le sexisme, il y en a plus dans les matières scientifiques ou c'est dans toutes les matières globalement ?
Je pense qu'il y en a plus dans les matières scientifiques que dans d'autres matières.
Est-ce que tu as déjà vécu du sexisme durant des matières scientifiques ?
Non, pas que je sache.
Et sinon, comment tu réagirais ?
Bah, je sais pas, en vrai, je pense que je serais pas forcément... Bah, en vrai, je sais pas, ça m'est jamais arrivé, après... Ouais, je serais pas... Enfin, j'essaierais d'agir, parce que c'est pas bien.
Et est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être plus fort qu'une fille dans les matières scientifiques ?
Ah non, pas particulièrement. Moi, je sais que ma voisine de classe qui veut prendre les matières littéraires, elle me fume dans toutes les matières scientifiques, donc j'ai bien le seum. Donc non.
Est-ce que tu as déjà vécu du sexisme durant des matières scientifiques ?
Ah non, jamais, non.
Non, jamais.
Et sinon, comment est-ce que tu réagirais ?
Bah, je trouve que ça serait assez honteux, en fait.
Est-ce que tu as déjà assisté à du sexisme dans les matières scientifiques ?
J'ai déjà une collègue de... en maths ou... Non, en physique chimique, où on lui a dit que... Enfin, une fille, on lui a dit que bah, ça servait à rien qu'elle continue là-dedans, tout ça.
Merci aux élèves du lycée Théodore Monod d'avoir répondu dans nos micros.
On voit qu'il y a encore pas mal de travail pour lutter contre les stéréotypes et le sexisme dans les matières scientifiques, entre autres.
Et les profs alors, quel est leur point de vue sur le sujet ? Pour le savoir, on est allé poser des questions à Madame Cordier, professeure de SVT au lycée Théodore Monod.
Bonjour, je m'appelle Hélène Cordier, je suis professeure de SVT au lycée Théodore Monod, d'Ureux, et j'enseigne en classe préparatoire post-BTS DUT, donc à des étudiants qui ont 20 ans et qui ont déjà fait un BTS ou un DUT. Et ces étudiants se préparent au concours agronomique ou vétérinaire.
Faites-vous attention aux inégalités de genre durant vos cours.
J'en suis consciente. Dans notre classe, on a sur 30 élèves, on a que 6 garçons, donc il y a 24 filles. Mais en termes de prise de parole, c'est souvent les garçons qui osent plus que les filles. Et c'est dans ce sens-là qu'on encourage les étudiantes à davantage prendre la parole.
Avez-vous déjà subi du sexisme durant votre scolarité ? Si oui, de quelle manière cela s'est traduit ?
Pas vraiment de sexisme pendant la scolarité. Je pense qu'on est quand même assez accompagné. On n'a pas de par les enseignants, on n'a pas à subir de sexisme. Non. Je dirais que c'est plus les barrières familiales ou sociales d'une manière générale.
A-t-on déjà remis en cause votre légitimité à enseigner des matières scientifiques ?
Dans la mesure où le concours qu'on passe pour être professeur, c'est un concours. Et une fois qu'on l'a, peu importe le sexe de la personne. Je rajouterais néanmoins que en biologie, en SVT, c'est un peu particulier dans la mesure où il y a souvent beaucoup plus de filles que de garçons. Donc on est moins, je pense, sujet à ce questionnement de légitimité.
Avez-vous déjà eu vent de situations problématiques, sexistes ? Qu'auraient pu subir vos élèves ?
Non, pas mes élèves. Mais après, quand ils deviennent vétérinaires, qu'ils font des études vétérinaires, c'est vrai qu'ils peuvent avoir des situations difficiles, notamment quand ils vont au contact des éleveurs ou des gens qui viennent dans leur cabinet pour faire soigner leurs animaux.
Est-ce que vous avez déjà senti dans vos études que ce métier était plus accessible à un homme qu'à une femme ?
Pas les études, peut-être le type de concours. En termes de difficultés et ensuite en termes de postes, c'est vrai qu'on voit qu'il y a peut-être plus d'enseignants hommes en lycée qu'en collège. Et après, en classe préparatoire, alors là, c'est vrai aussi, sauf peut-être pour la biologie où il y a beaucoup de femmes. Mais il faudrait que je vérifie les chiffres, mais je pense quand même qu'en classe préparatoire, il y a plus d'hommes que de femmes en termes de ratio. Et que le ratio est inversé par rapport aux réussites au concours d'enseignants.
Est-ce que vous pensez qu'être professeur de sciences est moins bien accepté qu'être professeur de matière littéraire quand on est une femme ?
Je ne pense pas, non. Mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, on voit plus les femmes dans la littérature, dans les langues que dans les sciences. Donc on revient sur la problématique des femmes et les sciences.
Et dernière question, est-ce que vous avez remarqué des différences entre les classes préparatoires et les classes type normales en termes de sexisme ?
Pas vraiment, mais peut-être plus de filles en classe préparatoire parce qu'elles veulent être plus vétérinaires que les garçons qui vont peut-être plus dans les sciences mathématiques et physiques, chimie. Donc c'est en ce sens-là qu'on voit dans cette classe préparatoire qui est à dominante biologie, en tout cas qui se destine à des écoles plutôt à dominante biologie, qu'on voit plus de filles que de garçons.
Un grand merci à Madame Cordier d'avoir pris le temps de répondre à nos questions.
Dès 10h le samedi, les productions des ateliers radio sont sur Syllab.
C'est quand on avait le casque, c'est qu'est-ce que j'ai préféré faire.
Dès 10h le samedi.
Tout de suite, c'est l'heure de notre première pause musicale.
On écoute le titre If I Were a Boy de la diva qu'on ne présente même plus. On veut bien sûr parler de Beyoncé.
If I were a boy, even just for a day, I'd roll out of bed in the morning and throw on what I wanted and go. Drink beer with the guys and chase after girls. I kick it with who I wanted and I never get confronted for it, 'cause they stick up for me. If I were, turn off my phone, tell everyone it's broken, so they think that I was sleeping alone. I put myself first and make the rules as I go, 'cause I know that she'd be faithful, waiting for me to come home, to come home. If I were, just a boy, you don't understand,
and you don't understand.
Oh, it feels to love a girl someday, you wish you were a better man. You don't listen to. You're just a boy.
C'était Queen B aka Beyoncé à l'instant sur Syllab. Restez avec nous.
Syllab, la radio sauvage.
Dès 10h, le samedi.
Avant, je détestais ma voix, maintenant ça va.
Moi, j'ai bien aimé enregistrer dans les studios et c'était cool.
Et après ces témoignages de terrain, on va se pencher sur la théorie maintenant.
Et oui, tout au long de l'année, on a travaillé sur des concepts qui montrent bien le sexisme subi par les femmes dans le domaine scientifique.
Grâce aux interventions de Suzanne Joly à
sujet d'école et étiquettes, mais aussi de notre rencontre avec le collectif Women in Copernicus, que vous découvrirez dans l'épisode 2, on a découvert plusieurs notions clés, comme l'effet Mathilda, la notion de plafond de verre ou encore le phénomène du tuyau percé.
Eh bien justement, vous pouvez nous en dire plus ? C'est quoi l'effet Mathilda ?
L'effet Mathilda, c'est le fait que des femmes sont invisibilisées. En gros, elles ne sont pas citées pour leurs travaux, elles ne reçoivent pas les prix Nobel qui leur sont normalement destinés. Ce sont tout le temps les hommes qui reçoivent tous les mérites, et surtout s'il y a une collaboration mixte.
Mais c'est de l'injustice. Et où est-ce que ça se passe ? Depuis quand ça existe ?
Ce phénomène existe dans le monde entier, dans tous les domaines, et dure sûrement depuis toujours.
Toujours ? Ça a été créé quand ?
En 1960, Robert Merton avait remarqué que des personnes étaient mises en avant par rapport à leurs collègues pour leurs travaux communs. Ils appellent cette théorie l'effet Mathieu. En s'intéressant à cette théorie, Margaret Rossiter a observé que ce phénomène était décuplé avec les femmes scientifiques. Elle a nommé cette théorie l'effet Mathilda en référence à la militante féministe Mathilda Jocelyn Gage.
Ça alors, tu peux me donner des exemples de femmes qui ont subi l'effet Mathilda ?
Bien sûr, il y a beaucoup de femmes qui ont été invisibilisées, même des femmes qui sont célèbres aujourd'hui. Comme par exemple Mileva Einstein, née en 1875 et morte en 1948. C'était une physicienne, mais aussi la femme d'Albert Einstein qui, lui, a publié plusieurs articles en son seul nom alors qu'il échangeait des lettres privées avec sa femme sur leurs travaux communs.
C'est dingue !
Dingue, n'est-ce pas ? Mais il y a aussi Jocelyn Bell, née en 1943 et encore en vie aujourd'hui, qui, elle, était astrophysicienne. Elle a participé à la construction d'un radiotélescope qui étudie les sources célestes d'ondes hertziennes analoguées à une étoile. Sauf qu'un jour, elle a remarqué quelque chose d'anormal. Au lieu de la friture habituelle, elle a reçu une séquence de 30 bips par seconde très régulier qui ressemble beaucoup à du morse. C'est son directeur de thèse, Anthony Ewish, qui a obtenu le prix Nobel en 1974 pour cette découverte.
Tu en as encore une ?
Oui, pour finir, il y a Rosalind Franklin, qui est née en 1920 et est morte en 1958. C'était une chimiste qui s'est consacrée à la structure de l'ADN et qui a déterminé sa structure en hélice grâce au cliché 51. En quittant King's College, elle montre ses travaux au docteur Maurice Wilkins, qui les montrera à Watson et Crick, d'autres scientifiques, à son insu. Ils recevront le prix Nobel de médecine alors qu'ils ne l'auraient jamais obtenu sans les travaux de Rosalind Franklin. Elle meurt 4 ans avant d'un cancer des ovaires suite à une surexposition aux radiations.
Eh bien merci Elodie et Lucie pour toutes ces informations qui nous ont été bien utiles. Vous nous avez appris beaucoup de choses et beaucoup de connaissances.
Avec plaisir.
On poursuit avec une deuxième notion clé. Il s'agit du plafond de verre. Ivy, tu as enquêté sur le sujet. Tu nous en dis plus ?
Avec plaisir. Alors, le plafond de verre, c'est un phénomène qui fait que des femmes se retrouvent en difficulté pour gravir les échelons. Ça peut être dans une entreprise, par exemple, ou encore dans les études. Dans notre cas, on va parler plus particulièrement du domaine scientifique.
Et du coup, on peut dater ce phénomène ?
Ce phénomène existe depuis toujours, mais c'est juste qu'on ne savait pas le nommer. En France, le phénomène se répand en même temps que le droit des femmes se développe. Comme quand elles ont eu le droit de travailler en 1965 ou encore le droit d'étudier en 1861. Et oui, je vous rappelle que les femmes n'ont pas toujours eu accès à ces droits qui paraissent pourtant fondamentaux aujourd'hui.
Et qui est concerné par le plafond de verre ?
Le plafond de verre a été initialement théorisé pour parler de la situation des femmes. Mais bien sûr, cela concerne toutes les minorités. Les minorités de genre, les personnes non-binaires, les personnes transgenres, les personnes LGBTQI+, mais aussi les minorités de classe ou bien les personnes racisées. Pour nos auditrices, les personnes racisées sont les personnes qui subissent les discriminations racistes. Comme je le disais au début de cette chronique, on retrouve le plafond de verre dans les études supérieures ou dans le secteur de l'emploi. Et dans le domaine scientifique, c'est flagrant. Selon les données de l'ISU, moins de 30% des chercheurs dans le monde sont des femmes.
Comment dépasser ce phénomène ?
Bien, c'est super simple, il faut que ces personnes fassent plus d'efforts pour réussir leurs objectifs. Et voilà le travail. C'est vraiment injuste.
Un jour peut-être ça changera.
Nous parlons dans notre cas des femmes dans les sciences. Je trouve ça aberrant que les femmes se retrouvent devant un obstacle comme le plafond de verre à cause de choses comme les stéréotypes de genre. Elles sont rabaissées, ce qui les bloque pour gravir les échelons. Je vais vous donner un exemple. Prenons Christine, elle a 45 ans et elle travaille depuis 10 ans dans la même entreprise. Elle n'a pas eu d'augmentation depuis 5 ans. Elle travaille dur et en plus, elle fait exactement le même travail que son collègue Jean. C'est le même poste, il a le même âge et la même expérience qu'elle. Pourtant, notre Jean, il vient de recevoir une belle petite promotion. contrairement à elles, alors qu'ils font le même travail. Et bah, au final, Christine, elle se remet en question, elle remet en question son travail, alors que c'est pas elle le problème. Vous trouvez ça normal, vous ?
Absolument pas, non. C'est assez scandaleux. Merci à toi, Ivy, pour cet éclairage. Il nous manque un dernier concept pour bien saisir tous les enjeux. C'est celui du tuyau percé.
Mais qu'est-ce qui se cache sous ce drôle de nom, Soazic et Basile ?
Alors, le tuyau percé, c'est le fait qu'il y ait une disparition progressive dans un domaine. Donc ici, en l'occurrence, on parle du domaine de la science. Effectivement, on assiste à une diminution des femmes au fur et à mesure des gestions d'une carrière scientifique. Pourquoi les femmes et pas les hommes ? Je trouve que c'est injuste, pourtant je suis un garçon.
Mais pourquoi tu te sens concerné, toi ?
Bah parce que pour moi, la question ne se pose même pas, c'est juste normal, c'est du bon sens.
Quand est-ce que ce phénomène est apparu ?
C'est compliqué de dater le phénomène. C'est lié au système patriarcal dans lequel nous vivons, et tout comme la naissance du patriarcat est impossible à dater, le phénomène du tuyau percé est quelque chose de très ancien.
Les femmes ont progressivement disparu de certains domaines et ont été empêchées de gravir des échelons. Mais ce fait peut quand même être daté car en 1868, les jeunes filles sont enfin autorisées à étudier la médecine. Madeleine Bray est la première femme inscrite au concours des hôpitaux. On peut donc penser que ce phénomène est apparu dès que les femmes ont eu accès à l'éducation.
C'est vrai que moi, j'ai toujours entendu parler des préjugés envers les femmes. Mais pourquoi ce phénomène est apparu ?
Ce phénomène est apparu à cause des discriminations et des stéréotypes de genre. Par exemple, l'idée que les femmes sont entre guillemets faites pour des activités ménagères comme la cuisine, ou bien les stéréotypes liés aux jouets. Par exemple, les voitures pour les garçons et la poupée pour les filles, etc.
Du coup, ça, c'est la menace du stéréotype. C'est l'effet d'un stéréotype ou d'un préjugé sur une personne. Donc la personne qui est jugée se sent anxieuse et éprouve un sentiment d'insécurité. Par exemple, si une femme fait une activité qui est stéréotypée, elle peut se sentir plus nulle et donc réussir moins bien. C'est Claude Steele et Joshua Aronson qui mettent en évidence ce phénomène en 1995. Petite anecdote, en EPS, on faisait du foot et je me sentais nulle. Ok, j'étais pas super forte. Mais parce qu'on m'a souvent dit que le foot c'est un sport de garçon et que les filles y arrivent moins bien. Personne ne me faisait la passe alors qu'il y avait des mecs qui avaient mon niveau et on ne me passait pas le ballon parce que j'étais une fille. Du coup, c'est vrai que je n'ai jamais vraiment essayé de me donner à fond dans le foot, en sport, parce que je me sentais nulle et rabaissée. Déjà que je n'aimais pas le foot, mais là, ça m'a encore plus dégoûtée. J'ai aussi des amies qui, quand elles étaient à l'école primaire, les garçons ne leur faisaient jamais la passe et elles n'avaient même pas le droit d'aller sur le terrain de foot.
Merci Soazic et Basile pour cette explication du concept du tuyau percé, assez méconnu.
Tout de suite, on enchaîne avec un moment de détente, en musique.
Tout à fait, on va s'écouter le titre « Tous les mêmes » de l'artiste Stromae. Restez avec nous, on revient juste après ça.
Les hommes et tous les mêmes, macho mais tu, bon de ma vie est infidèle. Si prévisible, non je ne suis pas certaine que tu le mérites, avec de la chance qu'on vous aime. Dis-moi merci. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous sûrement au prochain rêve. Cette fois c'était la dernière. Tu peux croire que c'est qu'une crise. Mat une dernière fois mon derrière. Il est à côté de mes valises. Tu diras au revoir à ta mère. Elle qui t'idéalise. Tu ne vois même pas tout ce que tu perds. Avec une autre ce serait pire. Quoi toi aussi tu veux finir maintenant. C'est le monde à l'envers. Moi je le disais pour te faire réagir seulement. Toi tu pensais moche ou belle.
C'est jamais bon.
Bête ou belle,
c'est jamais bon.
Belle ou moi,
c'est jamais bon.
Moi ou elle,
c'est jamais bon.
Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous au prochain règlement. Rendez-vous, rendez-vous, rendez-vous surtout au prochain rêve.
Tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre. Tous les mêmes. Tous les mêmes, tous les mêmes.
C'était Stromae avec son titre Tous les mêmes. Vous êtes sur le 88.4 FM et nous, on est en direct de l'auditorium de la médiathèque L'Autre Lieu.
Au passage, on les remercie chaleureusement pour leur accueil. C'est vraiment un plaisir de pouvoir enregistrer dans ces conditions.
Dès 10h le samedi, les productions des ateliers radio sont sur Syllabe.
C'est quand on avait le casque, c'est qu'est-ce que j'ai préféré faire.
Dès 10h le samedi.
Dernier sujet de cet épisode consacré aux sciences traitées au prisme du genre.
Maëwen, Lucie, Camille, Mokadas et Lucas ont eu le plaisir de rencontrer Morgane, une étudiante de l'INSA, l'école d'ingénieurs de Rennes.
Morgane est l'une des membres fondatrices de l'association Les Insatisfaites, jeu de mots entre le nom de l'école, le stéréotype sexiste selon lequel une femme est toujours insatisfaite et un cri de revendication.
Avant d'écouter cette interview, pouvez-vous nous expliquer un peu plus en détail en quoi consiste l'association Les Insatisfaites ?
Les Insatisfaites, c'est une association de l'INSA qui se revendique féministe. L'asso a été créée par des étudiantes.
Leur but, lutter contre le sexisme dans les écoles d'ingénieurs.
L'association a été créée il y a 4 années maintenant par un petit groupe d'amis. Et aujourd'hui, l'asso a mis en place de nombreux projets.
La diffusion d'informations pour prévenir les violences sexistes et sexuelles par exemple, mais aussi la création d'une cellule d'écoute au sein de l'école.
Les Insatisfaites organisent aussi de nombreux événements comme la journée femmes ingénieurs pour le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes.
Nous, on a donc posé des questions à Morgane, l'une des membres de l'association.
Est-ce qu'il y a un élément déclencheur à l'origine de la création de l'asso Les Insatisfaites ?
Alors, l'asso, elle a été créée elle a été créée plus tôt que 2018, mais elle a vraiment été relancée en 2018, de manière plus active. Il n'y a pas eu tellement d'éléments déclencheurs en soi, mais je pense que le mouvement MeToo y a quand même vachement joué. Inconsciemment, et voilà, l'asso s'est relancé petit à petit, et voilà, pour le moment, ça continue très bien.
Pourquoi avez-vous choisi ce nom d'association et ce logo, d'ailleurs ?
Du coup, le nom d'association, c'est pour un petit jeu de mots avec le nom de l'école, du coup l'INSA, et insatisfaite parce que on n'est toujours pas satisfait et satisfaite de la place des femmes dans la société et en école d'ingé, et voilà, et on aimerait bien atteindre l'égalité. Donc c'est pour ça que ça s'appelle les Insatisfaites. Et après pour le logo, c'est des mains qui forment un triangle, donc ça représente un vagin. Mais c'est aussi un symbole qui avait été largement repris dans les années 60, je crois, si je dis pas de bêtises, pendant les manifestations féministes. Et du coup, voilà, on s'est inspiré de ça pour faire notre logo il y a 4 ans, du coup.
Quel type d'inégalité avez-vous pu recevoir dans votre école ? Les constatez-vous dans les autres écoles ?
Au niveau des inégalités, c'est vrai qu'à l'INSA Rennes, on a de la chance, entre guillemets, parce qu'on a un taux de représentation féminine assez élevé par rapport aux autres écoles. On est à 35%, donc c'est pas encore parfait, mais on augmente petit à petit. Et après, pour ce qui est des inégalités, donc déjà au niveau du nombre, et après, les filles, elles sont plus souvent soumises à des propos sexistes, machistes. Il y a beaucoup de sexisme banalisé, même si on s'en rend pas compte, des petites remarques qui peuvent fuser par-ci, par-là. Et notre but, c'est vraiment de lutter contre ça et d'être à l'écoute des personnes qui se sentent blessées ou lésées par ce type de comportement. Et après, ça reste quand même... dans l'école, on est quand même bien soutenus et il y a quand même une ambiance bienveillante. Donc ça nous permet d'avancer, mais il y a toujours quelques petits problèmes qui restent par-ci, par-là. Et voilà, on est là pour les aider, quoi.
Vous avez récolté plusieurs témoignages de femmes victimes d'agressions sur votre compte Instagram. Comment se passe la prise en charge ?
Alors, on a eu beaucoup de témoignages, c'est vrai. Alors, en réponse à ça, l'année dernière, il y a... Donc, avec l'ancien bureau, moi, j'étais pas encore dans le bureau, mais il y a les filles de l'ancien bureau qui ont créé, conjointement avec la direction et l'administration, une cellule d'écoute pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et le harcèlement. Donc c'est une cellule où en gros les personnes qui sont victimes de harcèlement sexuel ou d'agression peuvent témoigner en envoyant un mail qui passe dans un système de manière à ce que ce soit anonyme et après la personne peut révéler son identité si elle le souhaite. Et c'est une cellule composée de plusieurs personnes, notamment donc des professeurs, la psychologue, mais il y a aussi tout un personnel plus juridique pour si c'est une agression de gravité très élevée, type viol, pour aller jusqu'à la justice. Et après, on travaille beaucoup avec la cellule, les membres de la cellule, parce que c'est souvent vers nous que les témoignages arrivent. bien plus que vers la cellule. Et sinon, pour continuer de faire avancer les choses, ce soir, justement, on lance un sondage au sein de l'INSA sur le type de ceux qui avaient eu lieu à Centrale Supélec et plus récemment à Polytech pour faire un état des lieux un peu des violences sexistes et sexuelles et voir ce qu'il en est au niveau de l'école et ensuite mettre en place des moyens d'action avec la direction en fonction des résultats et voilà.
Vos camarades hommes vous soutiennent-ils dans votre projet et est-ce qu'ils sont impliqués ?
Ouais, ils nous soutiennent vachement. Comme je le disais, on n'est que 35% de filles et pourtant on a un soutien de bien plus de 35% des élèves au sein de l'école. Donc ça, c'est super. Et même au sein du bureau, on a un garçon, Yanis, qui est trésorier. Et c'était vraiment un souhait de notre part de ne pas faire un bureau en non-mixité parce qu'on considère que les hommes sont nos alliés et qu'on peut avancer grâce à eux, surtout dans une école où du coup les femmes sont sous-représentées. Si on se les met à dos et qu'on les accepte pas avec nous, ça va être beaucoup plus compliqué d'avancer. Donc voilà, et oui, pour l'implication, après il y en a dans le bureau, on a aussi quelques membres actifs qui nous aident. Quand il y a des événements, tout ça, ça se passe très bien. Donc voilà, pour nous c'était très important.
Pouvez-vous nous raconter ce que vous avez organisé cette année pour le 8 mars, Journée internationale de lutte pour les droits des femmes et minorités de genre ?
Alors pour le 8 mars, on avait fait un petit post sur Insta qui reprenait un peu l'histoire du 8 mars. Et après, ça s'était fait un peu dans le rush pour des raisons un peu personnelles avec les gens du bureau parce qu'on avait des examens, tout ça. On avait quand même tenu à organiser quelque chose pour marquer le coup parce qu'on n'avait pas pu aller à la manif personnellement. Après, on avait dit aux personnes, on avait guidé un peu les personnes vers la manif si elles le pouvaient. Et après, nous, on avait organisé au sein de l'INSA, à la bibliothèque, on avait fait une petite soirée, on avait organisé des débats mouvants où en gros, les personnes se placent dans la salle en fonction de si elles sont d'accord ou pas du tout d'accord avec la question. Et ensuite, les gens débattaient en fonction de la place où ils étaient. Et c'était une soirée hyper enrichissante et il y a eu beaucoup de monde et je trouve que ça s'est bien passé. Donc voilà, je ne sais pas si on refera ça l'année prochaine. C'est vrai que les idées changent en fonction des années, mais voilà.
Et finalement, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez cette année et avez-vous des idées pour la suite ?
Alors, cette année, on a fait pas mal de projets. On a commencé avec le village des sciences au Champ Libre. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais on avait eu un petit stand pour parler de la représentation féminine dans les sciences, des femmes de sciences de manière générale. Voilà, on avait fait des petites pancartes, on avait expliqué un peu aux enfants et c'était hyper enrichissant parce que l'éducation, ça commence aussi dès le plus jeune âge et c'est important. Après, on avait fait toute une pendant la semaine de lutte contre les VSS, on avait organisé pas mal d'événements, on avait fait beaucoup de posts, on avait aussi fait des activités de fabrication de pancartes et on était allé à la manifestation ensuite. Après, il y a eu le 8 mars. Il y a eu la journée femmes ingénieurs qui s'est passée quelques temps avant les vacances. Là, on avait invité quatre anciennes diplômées de l'INSA Rennes pour nous parler de leur parcours à l'INSA, pour voir ce qui avait changé depuis qu'elles y étaient et pour voir leur évolution dans le monde du travail, comment ça se passait. Là, bientôt, on va faire une soirée sur notre campus sur le thème des insatisfaites, du coup, pour parler un peu des violences, tout ça, mais aussi que ça se fasse dans la bonne ambiance. On va faire une vente de goodies à l'effigie de notre asso et les fonds seront soit reversés à une association féministe si on a assez de fonds, sinon ce sera pour acheter des petits kits de défense pour distribuer aux filles sur le campus. Sinon après, on a fait beaucoup de postes. Aussi on fait un travail de fond qui se voit pas forcément, mais par exemple dans notre école on a un bar qui s'appelle Le Feuille et on travaille pas mal avec l'équipe pour notamment mettre un nom de code en place qui est affiché dans les toilettes pour les filles qui pourraient avoir des problèmes pour ensuite aller en parler au bar. On fait de la prévention tout au long de l'année sur notre campus. Et puis voilà, on travaille beaucoup aussi avec la direction, du coup, même si ça aussi c'est du travail qui se voit pas, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps pour faire avancer les choses en interne et aussi avec les membres de la cellule, pareil, pour se tenir au courant et s'entraider.
Un grand merci à Morgane d'être venue nous voir au lycée Mono il y a 2 semaines pour répondre à nos questions.
Et vous, chers auditeurs et auditrices, vous pouvez suivre le projet de l'association sur leur site www.insatisfaite.fr ou encore leur Instagram @insatisfaite.e.s où elles sont assez actives.
Maïwen, Lucie, Camille, Mokadas et Lucas, vous êtes aussi allés poser des questions en micro-trottoir dans le lycée.
Oui, on a demandé à nos camarades lycéens et lycéennes ce qu'ils et elles pensaient du lycée Théodore Monod en termes d'inclusivité.
On leur a aussi demandé leurs suggestions pour faire en sorte que les filles se sentent mieux dans le lycée.
Trouves-tu que les filles sont assez incluses dans le lycée? Et si oui, grâce à quoi?
Je pense que les filles sont assez incluses dans le lycée, notamment par rapport aux tenues. Si je prends le comparatif avec d'autres lycées, notamment à Rennes, les filles vont plus être restreintes par rapport à leurs tenues, alors qu'ici, on va pouvoir s'habiller comme on veut et mettre ce qu'on veut.
Bah ouais, moi je trouve qu'elles sont bien incluses parce que c'est un lycée, donc les mentalités changent.
As-tu des idées d'aménagement pour que les filles se sentent plus à leur place dans le lycée?
Moi, je pense qu'au lycée, on a déjà pas mal de trucs pour les filles, pour qu'elles se sentent à l'aise, notamment aux toilettes. On va pouvoir retrouver des tampons dans une box ou alors à l'infirmerie, on peut aller en demander. Donc, c'est plein d'aménagements qui font que les filles, elles peuvent se sentir plus à l'aise.
Moi, je pense qu'il faudrait arrêter la piscine parce que...
Ouais, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut arrêter la piscine.
Être en maillot de bain et tout, je pense que c'est pas bien. Parce que pour la construction, surtout à notre âge, parce que beaucoup de personnes se construisent à cet âge-là. On n'a pas besoin de remarques des garçons, donc voilà.
Et puis même, genre, voir le regard des autres et tout, je pense que c'est pas une bonne idée dans tous les cas.
Y a pas vraiment d'idée d'aménagement, vu qu'elles sont assez incluses dans le lycée, qu'il n'y a aucune fille d'exclue, on va dire.
Aurais-tu des idées pour que les filles s'orientent plus dans les filières scientifiques?
Je sais qu'en février 2020, il y avait eu une sortie avec les filles de seconde et de première du lycée, avec l'organisation Filles et Maths à Rennes. Sauf que ça n'a pas pu se reproduire parce que le lycée n'est pas prioritaire par rapport aux élèves de Rennes. Donc je trouve que ce serait une bonne initiative de la refaire pour que les filles soient plus intégrées dans les filières scientifiques.
Moi, je pense qu'il faudrait faire venir des intervenantes scientifiques pour nous donner envie. Parce que là, en fait, c'est que des hommes qui nous présentent, ou même quand c'est des femmes, enfin, c'est pas vraiment précisé. Donc s'il y avait vraiment des intervenantes qui viendraient, et femmes, ça nous donnerait envie et on verrait leur parcours, voilà.
Oui, moi je pense que ce serait bien aussi qu'il y ait des femmes, moi, qui viennent, et qui expliquent ce qu'elles font, pourquoi elles sont scientifiques, quoi, voilà.
Faudrait qu'il y ait plus d'interventions avec des femmes qui travaillent dans le milieu scientifique.
Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu répondre à nos micros.
On prend note de vos remarques et on espère améliorer le lycée l'année prochaine, même si déjà vous soulignez qu'il y a pas mal d'efforts de fait et c'est très bien.
C'est là la radio sauvage, des heures le samedi.
Avant je détestais ma voix, maintenant ça va.
Moi j'ai bien aimé enregistrer dans les studios et c'était cool.
C'est déjà la fin de cette émission spéciale Femmes et Sciences.
On va laisser la place à nos camarades de seconde qui vont prendre le relais sur ce beau plateau que nous avons aujourd'hui à l'auditorium de la médiathèque L'Autre Lieu.
Et ouais, un épisode 2 se prépare à être enregistré.
Vous qui nous écoutez, vous pourrez écouter l'épisode 2 le samedi 11 juin à 10h sur le 88.4 FM ou sur le site de la radio SILAB www.c-lab.fr.
Et l'émission que vous venez d'entendre sera disponible très prochainement en podcast sur le site de la radio, également à la rubrique Les Ateliers Radio.
Avant de se quitter, on tenait à remercier Aurélien de SILAB aujourd'hui à la technique.
On remercie aussi fortement les Champs Libres qui ont soutenu ce beau projet.
Un grand merci encore à Suzanne Joly, intervenante égalité femmes-hommes, grâce à qui on a bénéficié de super ateliers autour des stéréotypes du genre et du sexisme dans les sciences.
Merci aussi à Guérelmo, Roberta, Marie et Gwen pour leur implication sur ce projet et pour leurs précieux éclairages. On souhaite longue vie au podcast Women in Copernicus et vous qui écoutez, si vous ne connaissez pas, allez voir, c'est super cool.
Merci à Léa, chargée des actions culturelles et des ateliers de SILAB et merci à nos professeurs Madame Lelu et Monsieur Geland et à Madame Cambois, notre CPE.
Salut à toutes et à tous et bon après-midi sur SILAB.
SILAB, la radio sauvage.
Dès 10h le samedi.
Nous, on a beaucoup aimé préparer cette émission pour vous.
Les ateliers de radio SILAB dès 10h le samedi.
J'ai entendu ta voix dans la radio.
On remercie la radio SILAB pour les ateliers.